Et c'est l'heure du journal. Benoît Bouscarel, bonsoir Benoît.
Bonsoir. Nous reviendrons bien sûr dès l'ouverture de ce journal sur la mort aujourd'hui de Jacques Higelin. Les hommages pleuvent depuis l'annonce du décès d'un des auteurs français les plus marquants de ces dernières décennies. Retour également avec Antoine Marette sur le procès qui s'est ouvert hier de la filière djihadiste de Lunel dans l'Hérault. 5 hommes qui sont jugés en correctionnel à Paris pour association de malfaiteurs à l'international. Nous prendrons des nouvelles de l'ancien président brésilien Lula, condamné à de la prison ferme et qui doit se rendre aujourd'hui même à la justice. Il n'en a pas la moindre intention, nous dira Anne Vigna.
Je suis amoureux d'une cigarette, toute la sainte journée, elle me colle au bec.
Amoureux de sa cigarette et de la vie en général, il était né dans un spasme, du moins le chantait-il, il y a 77 ans. Et depuis, Jacques Higelin a vécu sa vie, le cœur en fête, ce monument de la chanson française, auteur, compositeur, interprète, à la coiffure foutraque et aux records flamboyants, est décédé ce matin. Retour avec vous, Mathilde Erard, bonsoir.
Bonsoir.
Sur la vie et l'œuvre de cet autre fou chantant.
Un poète, un rebelle, un pionnier du rock français. Première chanson enregistrée en 1965. Il n'est pas encore connu à cette époque. Un vent de rébellion souffle dans le monde et en France. Higelin débute dans cet esprit de révolte et apporte un esprit rock à la chanson française. Bertrand Dical, spécialiste de la chanson française à France Info.
Ce qu'il y a de plus important chez lui, c'est qu'il poursuit une espèce de course aux armements. On avait Lautréamont, puis Rimbaud, puis Charles Trenet, puis Jacques Higelin. Il essaie de continuer quelque chose. Quand on est dans les années 60, quand on est dans les années 70, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'il arrive à chanter des choses aussi fortes que quand il dit qu'il se refuse aux vérités premières assenées par des cons. C'est-à-dire qu'il est à la fois un poète et un rebelle.
C'était un amoureux des mots également. Il utilisait sa notoriété pour soutenir des causes nationales. Sur scène ou dans la vie quotidienne, Jacques Higelin était aussi une personne imprévisible.
Higelin avait cette capacité phénoménale à se surprendre lui-même. Il était imprévisible pour les autres, mais il était imprévisible pour lui aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il allait faire. Et le chemin des loges à la scène pouvait prendre 30 secondes la plupart des soirs, mais de temps en temps ça prenait une heure, de temps en temps ça prenait deux heures. Il s'était mis à parler avec quelqu'un, il avait vu une guitare dans un coin, il avait vu un djembé, il avait vu un instrument de musique qu'il connaissait pas, et c'est en ça qu'il est un poète. C'est-à-dire que ses chansons nous racontent ça aussi.
Higelin était à la première du Printemps de Bourges en 1977. Son fils Arthur H. lui rendra hommage lors de ce festival à la fin du mois.
Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel.
Merci Mathilde Erard. France Culture vous propose ce soir un numéro spécial de la dispute consacré à Jacques Higelin. Vous y retrouverez Bertrand Dical qu'on vient d'entendre. Sachez que notre site internet consacre également une large place à Jacques Higelin aujourd'hui, franceculture.fr. Notons parmi les réactions celle de Benjamin Biolay. Higelin, écrit-il sur Twitter, était aussi brillant, doué que charmant. Le merveilleux Jacques est donc parti. Lui aussi. Une vieille connaissance de Jacques Higelin est également décédée aujourd'hui. Patrick Fonte, humoriste et chansonnier qui avait longtemps tourné avec son alter ego Philippe Val, notamment sur les ondes de France Inter. Sa carrière avait connu un coup d'arrêt en 98 après une condamnation pour attouchement sur mineur. Le gros ras-le-bol des enseignants et des élèves du lycée Utrio de Stain en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, accompagnés de parents et d'élus, ils ont organisé une importante mobilisation au sein même de l'établissement pour dire stop à la violence. Il faut dire que l'établissement est particulièrement concerné par les comportements violents et ces derniers jours ont c'était encore l'exemple. Bonsoir Charlotte Lalanne.
Bonsoir.
Une réunion se tenait cet après-midi pour tenter de trouver des solutions. Qu'en est-il ressorti?
Eh bien, beaucoup de frustration à en croire les enseignants et conseillers principaux d'éducation présents à cette rencontre. On leur avait promis un temps d'échange. La discussion aura duré une heure. Autour de la table, en plus des profs, il y avait des représentants des parents d'élèves, des maires, des mairies de Stain et Pierrefitte, de la police, du rectorat, de l'inspection académique et de la sous-préfète. La priorité pour elles, c'est le renforcement renforcement de la présence policière aux abords de l'établissement. Concrètement, cela veut dire plus de patrouilles aux heures de rentrée et de sortie des classes au moment où les affrontements entre bandes rivales se produisent. La dernière en date, c'était le 12 mars dernier, un adolescent frappé à coups de marteau à l'entrée de son lycée. Cet après-midi, le rectorat s'est également engagé au maintien des équipes mobiles de sécurité jusqu'à la fin de la semaine prochaine au moins, à l'extérieur du lycée, mais aussi à l'intérieur, puisque les 11 surveillants de cet établissement de 1300 élèves se sont déclarés tous en arrêt maladie. Voilà donc pour les mesures d'urgence, mais aucun chiffre n'a été avancé. Quant au plus long terme, le défi numéro un, c'est la prévention des violences. Et pour cela, des groupes de suivi des élèves pourraient être mis en place. L'idée, c'est donc que les acteurs se coordonnent mieux, enseignants, éducateurs spécialisés, médiateurs de quartier, et ce, de façon transversale, entre Stein et Pierrefitte.
Merci Charlotte Lalanne. Le mouvement de grève à la SNCF pourrait être encore plus suivi lundi au moment de sa reprise et il pourrait surtout durer plus longtemps que prévu, c'est-à-dire au-delà du mois de juin. C'est la CGT Cheminot qui l'annonce cet après-midi à l'issue d'une réunion au ministère des Transports qui n'a visiblement pas fait avancer les négociations sur le projet de réforme de la SNCF. Justice, 5 hommes sont jugés depuis hier au tribunal correctionnel de Paris, 16e chambre, pour avoir appartenu ou pour avoir organisé la filière djihadiste dite de Lunel. Entre 2013 et 2014, cette petite ville de l'Hérault avait vu une vingtaine de ses jeunes partir pour le djihad. La moitié n'est pas revenue. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Vous suivez l'audience pour nous en direct au Palais de Justice de Paris.
Et c'est le cas d'Adil Barki qui a intéressé la Cour aujourd'hui. Il s'est rendu en Syrie pendant un mois en 2013. Il ne le conteste pas. Le jeune homme, qui, comme les 4 autres prévenus, habite dans la région lunelloise, affirme avoir été choqué par les images d'affrontements en Syrie. Il décide d'aller sur place pour aider le peuple syrien face à l'armée de Bachar el-Assad. Les aider comment ? Lui demande la présidente. En pacifiant la zone de combat, répond Barki. Pacifier une zone de combat, s'étonne la magistrate. Réponse pataude du prévenu, j'étais un peu perdu. Mais Adil Barki, le naïf, se révèle capable de se rendre en avion à Istanbul, puis à Ankara en voiture, pour finalement traverser la frontière turco-syrienne, et il affirme l'avoir fait sans l'aide de personne. Sur place, il rejoint un groupe djihadiste, Jaïch Mohamed, l'armée de Mohamed. On lui annonce le programme de sa formation, une semaine d'entraînement physique, puis une semaine de maniement des armes. Mais Adil Barki ne dépasse pas la première semaine. J'ai rencontré des difficultés d'ordre psychologique, enfin d'ordre surnaturel. J'étais persuadé d'être possédé. Il consulte donc un exorciste, mais le malin se révèle particulièrement retors et les crises d'angoisse se poursuivent. Barki quitte donc sa formation au djihad et se livre à des activités plus tranquilles, comme des travaux ménagers et de la cuisine au sein de la Katiba, la maison où habitent les djihadistes. Et finalement, au bout d'un mois seulement, il quitte la Syrie. Il s'enfuit, précise-t-il. « Je ne supportais pas la violence. »« Quelle violence ?» lui demande la présidente alors qu'il affirme n'avoir jamais combattu. « La violence de la destruction, les ruines, la désolation. » Le tribunal doute de cette version et suspecte Barki d'avoir envisagé un retour en Syrie, ce qu'il dément fermement. Barki serait-il un idéaliste croyant aller en Syrie pour aider la population ? La présidente lui rappelle ces mots prononcés sur Skype, alors que l'un de ses amis l'appelle pour lui annoncer la mort de ses 2 frères en Syrie. « Je suis content pour eux, ils sont tombés en martyrs. » Elle lui demande de s'expliquer sur ses propos. « Mon ami venait de perdre ses 2 frères, il pleurait. Je lui ai dit ça pour le rassurer. »
Merci Antoine Marette en direct du Palais de Justice de Paris. Une stratégie pour faire face aux conséquences de l'autisme, diagnostic et intervention précoce, accompagnement vers l'école et dans l'emploi. Le Premier ministre Édouard Philippe présentait aujourd'hui cette stratégie sur 5 ans visant à donner aux enfants et aux adultes autistes une vie la plus normale possible, pour reprendre les mots du Premier ministre. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du Musée d'Histoire Naturelle de Paris où le plan du gouvernement a été dévoilé. Édouard Philippe y a appelé à un sursaut du pays en faveur des autistes.
Édouard Philippe a d'abord rappelé ces mots d'une maman qui l'avait consterné. La fatalité, ce n'est pas d'être autiste, c'est de naître autiste en France. Voilà ce qu'il veut combattre, lui qui a reconnu ne pas avoir beaucoup d'expérience en matière d'autisme, si ce n'est cette famille venue le voir autrefois, lui, Édouard Philippe, alors maire du Havre, pour tenter de faire appliquer ce qui aurait dû être un droit et une évidence, la scolarisation de leur enfant autiste. Après ce préambule d'un Premier ministre tout en modestie, est venue l'annonce de la la stratégie qu'on connaît en réalité depuis hier soir, hein, les 344 millions d'euros déployés pour dépister au plus tôt les enfants, former donc plein de personnels qui sont à leur contact, créer des plateformes qui orienteront les familles bien avant même le diagnostic qui lui peut prendre des années, vers des professionnels libéraux dont les soins seront en partie remboursés. Et puis il y a, vous l'avez dit, un volet autour de l'école inclusive, du logement, de l'emploi, de la recherche. Pas moins de 4 ministres viennent de se succéder ici pour de très courtes tables rondes, en donnant d'ailleurs la parole à toute la société civile, médecins, associations autistes eux-mêmes qui ont été inclus, et le gouvernement voulait le montrer dans la préparation de cette stratégie.
Alors parmi les réactions à l'annonce de cette stratégie, écoutez celle de Danielle Langlois, présidente de l'association Autisme France. Elle dénonce l'insuffisance de moyens annoncés par le gouvernement, des moyens qu'elle va jusqu'à juger dérisoires.
C'est pas avec 340 millions d'euros qu'on va pouvoir faire le tour de tous les problèmes. Bon, par exemple, pour le diagnostic et l'intervention précoce, les plateformes, je ne sais pas avec qui on va les faire. Comme on n'a toujours pas touché aux formations initiales, ben, on n'a pas les professionnels, les psychologues du développement, par exemple, les éducateurs spécialisés. Les orthophonistes sont en général bien formés, mais elles sont en nombre très insuffisant. Donc on n'a pas les professionnels pour faire ni le diagnostic précoce, les bilans nécessaires, ni encore moins l'intervention précoce qui va avec. Parce que là, dans la stratégie, on dit qu'il y aura un forfait pour des libéraux pour l'intervention précoce. Mais oui, mais on n'est pas précoce, enfin jusqu'à 5 ans, ça va bien, quoi. Mais après, ben, le problème, il est toujours le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre médico-sociale suffisante, qualitativement et quantitativement. Et donc, les parents se retournent beaucoup vers des libéraux quand ils le peuvent. Parce que les autres, ils restent prisonniers des hôpitaux de jour, des CMP, des CAMS, malfaisants, maltraitants. C'est ça, le gros scandale en France. Hein. C'est que ceux qui ont les moyens peuvent repérer les professionnels en libéral qui tiennent la route et qui sont compétents, hein, et performants, et puis aller après se bagarrer à l'MDPH pour se les faire partiellement ou totalement rembourser. Mais si on n'a pas Bac plus 4, l'MDPH, c'est mort, hein, on peut pas. Hein. Donc moi, pour l'idée, rien à dire. Hein. Après, comment on s'y prend, eh ben, je ne sais pas. Donc ça m'a laissé un peu perplexe.
Voilà des propos recueillis par Tara Schlegel qui signait ce dossier sur les annonces gouvernementales autour de la prise en charge de l'autisme. Tara Schlegel était avec Yvan Turc pour la transmission. À l'étranger, les tensions et les affrontements aujourd'hui à la frontière de la bande de Gaza ont fait 2 morts et au moins 150 blessés d'après un bilan qui n'est encore que provisoire. Les manifestations pour réclamer le droit au retour des réfugiés ont été de moindre intensité que la semaine dernière. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Vous êtes en direct avec nous des abords de la ville de Gaza. Bilan beaucoup moins lourd donc pour l'instant. Il faut dire aussi que l'armée israélienne a visiblement revu sa stratégie face aux manifestants.
Oui, on l'a vu diversifier en tout cas ses moyens répressifs sur cette opération. Ce matin, il y avait des canons à eau. Ils ont utilisé aussi les lacrymos, mais il y a eu quand même des tirs à balles réelles. Des tirs ici sur le secteur est qui étaient sporadiques, parfois un peu soutenus, et surtout qui pour certains ont visé des hommes qui étaient dans des groupes situés à une centaine de mètres de la frontière, donc qui visiblement ne présentaient pas de risque, de danger ou bien de pression. Israélienne. Plusieurs balles ont atterri dans ces secteurs-là et on était assez proches pour rien de vous cacher. Donc là-dessus, c'est assez clair. Il y a eu un usage des balles qui ont touché un secteur qui n'était pas celui de la proximité forcément de la frontière. Voilà pour la façon dont les Israéliens se sont comportés aujourd'hui. Il faut dire que ce chaudron près de la frontière était sous l'œil de la communauté internationale. Il y a eu un appel de l'envoyé spécial de l'ONU dans la région pour essayer de faire de cette journée, une journée différente, arriver à faire en sorte qu'il y ait de la retenue du côté israélien. Et les Américains avaient aussi appelé, cette fois du côté palestinien, à ne pas aller en direction de la frontière. Pour autant, cette manifestation s'est concentrée sur la zone tampon de la frontière. C'est une zone interdite aux Palestiniens, en règle générale, par la sécurité israélienne. Les Palestiniens, les Gazaouis, se la sont réappropriés. Et cette manifestation ne s'est pas collée aux tentes qui sont situées environ 1,5 km d'ici pour se symbole, on va dire, de la manifestation pacifique, mais elles sont allées en direction de la frontière. Il y avait là beaucoup de monde. Il y avait un rideau de fumée noire impressionnant, puisque les Palestiniens ont brûlé des pneus pour essayer de se cacher des snipers. C'est là où les choses se sont passées, avec ici aussi quelques blessés et des personnes qui ont été touchées par tir à balles réelles.
Merci Étienne Monin, en direct de Gaza. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva a un passé bien connu, ancien ouvrier, syndicaliste et ancien président. Il a aussi un avenir qui semble s'être considéré considérablement assombri ces dernières semaines. Condamné à 12 ans de prison pour corruption, il a officiellement jusqu'à ce soir pour se rendre à la justice. Une convocation à laquelle pourtant il semble bien n'avoir aucune intention de se rendre. Bonsoir Anne Vigna.
Bonsoir.
En direct avec nous depuis Rio de Janeiro, vous suivez la situation. Pour nous, elle est en train de se jouer. Où en est-on ce soir ?
Ben nous en sommes là à 4 heures de l'ultimatum du juge Moreau pour que donc Lula se rende volontairement à Curitiba, où la police a présenté la cellule spéciale pour l'ancien président, qu'elle a montré aux médias. Lula sera donc détenu sans aucun contact avec les autres prisonniers. Mais toutes les questions, effectivement, de savoir s'il va ou pas se rendre. Il n'y a pas eu de communiqué officiel du Parti des Travailleurs. Toute la presse titre sur le fait qu'il n'ira pas à Curitiba. Il est actuellement toujours à San Bernardo do Campo, qui est à une heure au sud de San Paulo. Paolo, c'est là qu'il vit, c'est là où se trouve aussi le syndicat des métallurgistes. Et c'est là que le PT a donc appelé les militants à se rendre. Des mobilisations sont prévues dans tout le pays ce soir. Ses avocats tentent une nouvelle bataille judiciaire. Ils ont de nouveau déposé un autre habeas corpus au tribunal supérieur de justice, cette fois un autre tribunal supérieur. Et ils ont également demandé que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève émette une injonction pour éviter la prison de Lula. Ils dénoncent toujours cette précipitation à mettre Lula derrière les barreaux, alors qu'ils attendent encore une réponse du tribunal d'appel sur certains points de la sentence.
Merci Anne Vigna, correspondante au Brésil pour France Culture. Nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions pour suivre cette situation. Et nous en arrivons à l'enquête de cette édition sur un personnage très en vue en Europe et dans le monde, un personnage pourtant très discret. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir.
Du service d'investigation de Radio France, vous avez enquêté sur le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, un grand patron qui cultive l'art de la discrétion.
Oui. Carlos Ghosn, 64 ans, est depuis 2005 le patron incontesté de l'alliance Renault-Nissan, devenu premier constructeur automobile mondial. Et il n'aime pas du tout parler de son salaire. Sur le papier, son salaire français a baissé de 30%. C'était, souvenez-vous, la condition fixée par l'État actionnaire pour le reconduire 4 ans de plus. Sauf qu'en fait, il a 3 salaires. Renault, Nissan, Mitsubishi, au total 15 millions d'euros perçus l'an dernier, sans compter les millions en actions et en stock options qu'il a touchés ou pas encore.
Avec sans doute aussi, Philippe, une volonté d'optimiser ses profits.
Ben oui, en juin dernier, l'agence Reuters révèle qu'un banquier de Londres a élaboré pour le compte de Carlos Ghosn un projet de fondation aux Pays-Bas, hors de contrôle des actionnaires, pour verser des super bonus aux plus hauts dirigeants du groupe. Carlos Ghosn a démenti, mais pour l'expert Loïc Dessin, analyste financier, ce projet a bel et bien existé.
Le projet visait à contourner les règles normales de contrôle des rémunérations. Et donc, c'est un beau travail, en fait, pour essayer d'échapper aux règles de contrôle. Passer par une fondation, si on veut contourner à la fois le droit, l'information des actionnaires, éventuellement les charges sociales françaises, c'était une très bonne idée. Il essaye de se faire passer pour le vilain petit canard, un petit peu, en disant, écoutez, moi, j'ai rien demandé. Ouais, ok, mais je suis pas sûr qu'on propose toujours ce genre de deal à tous les dirigeants de ce côté française.
Alors, on constate que Carlos Ghosn aime la discrétion. Il a aussi, Philippe, l'obsession de la sécurité.
Oui, c'est peu connu, mais lorsqu'il débarque au Japon en 1999 pour redresser Nissan, Carlos Ghosn reçoit des menaces de mort. Et c'est ce qui explique que depuis, Carlos Ghosn vit en permanence avec des gardes du corps.
Alors, Philippe, vous avez également enquêté sur une cellule d'espionnage qui existerait au sein même de Renault.
Qui a existé jusqu'en 2011. Et elle ne s'intéressait pas qu'aux salariés français ou japonais du groupe. C'est ce que prétend un ancien espion de Renault, Dominique Jevray. Son chef, un certain Rémi Pagny, ancien de la DGSE, lui aurait demandé de surveiller les téléphones des deux hauts fonctionnaires de l'agence des participations de l'État, l'APE, présents au conseil d'administration de Renault. Écoutez Dominique Jevray.
Pagny vient me voir, en secret, Dominique Yaktok au courant. Et selon Pagny, Ghosn souhaitait que j'épluche, entre guillemets, toutes les fadettes des téléphones privés des deux hauts fonctionnaires de l'APE. Donc, j'ai dit qu'il était hors de question que je le fasse. J'aurais pu le faire, il aurait fallu que je sollicite des amis hors Renault. Deux jours après, Pagny revient à la charge, il me dit c'est un ordre de Ghosn. J'ai dit non, je suis désolé. Pour moi, il était hors de question de franchir une fois de plus la ligne jaune.
Et selon ce témoin, parmi les deux hauts fonctionnaires espionnés, il y avait Alexis Kohler, qui est aujourd'hui le secrétaire général de l'Élysée. Bien sûr, tout cela a été démenti par Renault et par Carlos Ghosn.
Alors ce PDG si secret, Philippe Reltien, aujourd'hui, il devient également patron de presse.
Oui, il vient d'entrer au capital du magazine économique Challenge avec 5 millions d'euros pour le groupe de presse de Claude Perdriel. Et pour Éric Routier, journaliste à Challenge justement, ce serait un signal envoyé au pouvoir par Carlos Ghosn.
Moi, je crois que Carlos Ghosn investit dans le groupe Challenge parce qu'il a été longtemps accusé de privilégier Nissan et qu'il avait beaucoup de choses à négocier avec l'État français. Il fallait rééquilibrer la jambe française. Il l'a fait avec Renault, mais il le fait aussi avec des tas de petites décisions comme ça, qui en plus ne lui coûtent pratiquement rien. Ça lui permet à bon compte de se faire bien voir, et Challenge est un bon pion de ce point de vue.
Se faire bien voir au moment où Carlos Ghosn voudrait bien que l'État français cède ses 15% au capital de Renault, ce qui lui permettrait de mieux négocier la fusion de Renault avec Nissan, avec de préférence toujours lui, en clé de voûte de l'édifice.
Merci Philippe Reltien, enquête à retrouver en longueur sur franceculture.fr.
Les sanglots longs des violons de l'automne.
On prend encore quelques secondes sur ce journal pour saluer la dernière des voix de la résistance à l'occupation nazie qui vient de s'éteindre aujourd'hui même. Frank Bauer, ultime survivant français de l'équipe de Radio Londres, est mort à 99 ans. Il avait fait partie de l'équipe de journalistes français qui se relayait sur les ondes de la BBC pour donner les fameux messages codés de Radio Londres. Une perturbation arrive lentement sur l'ouest du pays d'après Météo France. Il fera moins beau demain, les températures minimales de 5 à 12 degrés, les maximales de 13 à 17.